Grand Cirque. À la découverte des grands sites. Un reportage sur les terres de Midi-Pyrénées.
La Bastide de Villefranche de Rouergue, en Aveyron, nous est présentée par Christophe Évrard, animateur de l'architecture et du patrimoine.
Grand site.
Villefranche de Rouergue est une bastide emblématique, c'est une bastide à grand, à fort développement urbain. C'est l'une des plus importantes bastides qui a été fondée au XIIIe siècle, à l'époque effectivement où le pouvoir, le roi de France, mais avant lui le dernier comte de Toulouse, Raymond VII, décide de fonder des villes, des bourgs et des villages, des bastides, des bourgs, des villes qui vont permettre de développer des échanges économiques et de fixer des populations qui auparavant habitaient la campagne. Nous sommes dans les années 1229 pour les premières créations, jusqu'à la fin du XIIIe siècle pour l'essentiel. Et cette époque correspond à un redéploiement économique très très fort dans tout le royaume de France. La population a augmenté d'une manière considérable grâce à des conditions climatiques exceptionnelles. Les récoltes sont très bonnes, les familles ont plus d'enfants, les enfants vivent plus longtemps, ces enfants eux-mêmes ont des enfants, donc la population française et européenne au XIIIe siècle double, les campagnes grossissent et on assiste également au développement des grandes foires en Champagne, dans la vallée du Rhône, dans d'autres pays étrangers, sur le pourtour de la Méditerranée. On est dans une logique d'aménagement de l'espace médiéval et de redéploiement économique, ce qui explique notamment la volonté des autorités, des élites laïques et religieuses de créer des villages, des bourgs et des villes qu'on appelle au XIIIe et au XIVe siècle des bastides. Il y en a un peu plus de 300 dans le sud-ouest de la France, entre le nord de Bordeaux, si vous voulez, les Pyrénées, la région Quercy-Rouergue et les portes de la Méditerranée. C'est une ville qui présente la particularité d'être un lotissement urbain. C'est une ville qui s'organise autour d'un espace vide, une place, une grande place de marché, située au centre, qui va permettre effectivement à la population qui se fixe dans la ville dès 1256 de développer des échanges économiques, de produire. Donc les gens qui s'installent à Villefranche dans les années 1256, 1257, 1258, ce sont naturellement des éleveurs, des agriculteurs, des gens qui viennent de la campagne et qui ont trouvé une certaine forme de sécurité, mais également qui disposent de franchises. On est dans une ville, si vous voulez, qui est une ville de défiscalisation, une zone franche. Alors ces paysans, ces agriculteurs, mais également des artisans spécialisés, des commerçants, puis ensuite des négociants se fixent et vont participer à cette aventure économique qui se déroule non seulement sur la place du marché, où vont se mettre en place deux marchés, puis trois marchés par semaine. L'un de ces marchés existe encore le jeudi matin et c'est un formidable lieu d'échange entre les gens de la campagne et la ville. Et puis également une très très grande quantité de magasins, d'ateliers qui sont aménagés à cette époque-là naturellement au rez-de-chaussée des maisons et dans les caves. Et c'est une ville certainement bourdonnante, grouillante d'activités, dans laquelle s'installe très très rapidement au XIIIe siècle 600, 700, peut-être 800 familles. Voilà, une ville qui est vraiment au service de cet aménagement de l'espace et du redéploiement économique dont nous parlions. Les ressources, ce sont tout d'abord les ressources agricoles, les ressources forestières. Ce sont des paysans alentours qui produisent du seigle dans ces gars-là, qui produisent du froment, qui produisent de l'orge, qui viennent vendre leur surproduction sur le marché ou lors des foires. Il y avait 4 foires pendant l'époque médiévale à Villefranche, en dehors de la ville naturellement. Ce sont des gens également qui cultivent le raisin et qui viennent vendre du vin. Il y a un grand, grand commerce, un commerce très, très important de vin, ici comme ailleurs, pendant l'époque médiévale et jusqu'au XIXe siècle. C'est également le travail du chanvre, qui semble avoir pris des proportions très, très importantes. On fabrique des draps, on fabrique des toiles de chanvre, on fabrique du cordage. Le travail de la laine, naturellement, l'artisanat drapier ou l'industrie drapière se développe à Villefranche, je le crois essentiellement à la fin du XIVe siècle, après l'occupation anglaise pendant la guerre de Cent Ans. Et puis, un autre jalon très très important de l'économie, c'est le travail et le commerce des métaux. On travaille le fer naturellement, on travaille l'argent, on travaille les métaux précieux, on bat également surtout le cuivre à Villefranche et aux portes de Villefranche, à la Bastide-l'Évêque, dans des martinets, des moulins hydrauliques, dans lesquels on met en forme des chaudrons, des pérolles, des casses qui vont être ensuite transportées à Villefranche par chariot et travaillées par d'autres artisans qui vont les vendre sur place ou qui vont les acheminer sur d'autres marchés, d'autres foires. Voilà, donc le commerce du métal était très très important. Et alors, lorsque Villefranche devient capitale de la Sénéchaussée, lorsque Villefranche devient la capitale du Rouergue, en 1369, après l'occupation anglaise, eh bien, très peu de temps après, en 1371, Villefranche se dote d'un atelier monétaire sur autorisation du roi, naturellement. Villefranche, bonne ville, entre guillemets, a le privilège de battre des monnaies de cuivre, des monnaies d'argent et peut-être même des monnaies d'or pour le roi de France.
Alors, on se situe où, là, précisément, et actuellement ?
Alors, nous sommes devant la fontaine du Griffoul. C'est une fontaine qui est aménagée dans la partie basse de la Bastide. On est en contrebas de la place du marché, de la place Notre-Dame. Et c'est une fontaine qui est aménagée dans les années 1340. Alors, naturellement, pour satisfaire les besoins des habitants, pour que ceux-ci puissent disposer d'eau potable, c'est la seule fontaine de la ville. Et c'est également un symbole urbain, puisqu'une fontaine de cette dimension, cette grande cuve de calcaire sculptée de colonnes et décorée de masques et de figures qui représenteraient, dit-on, les consuls de la ville, est un symbole urbain. Une bonne ville dispose d'une place, dispose d'une fontaine et dispose d'un pont, puisque quelques années avant l'aménagement de cette fontaine du Griffoul, on a lancé de grands travaux au-dessus de l'Aveyron pour construire le pont des consuls, le vieux pont. Voilà, des travaux qui sont commencés en 1298 et qui s'achèvent en 1321 et qui vont permettre, là encore, à la ville de se développer d'une manière manifeste, permettant donc aux habitants de se déplacer, mais également aux voyageurs de rentrer, de sortir de la ville, et puis aux commerçants qui transportent bien souvent des marchandises par chariot, d'aller jusque dans les rues, jusqu'au magasin, mais surtout jusqu'à la place du marché.
Alors, un élément ici du patrimoine, mais il y en a d'autres.
Alors oui, il y a beaucoup d'autres richesses patrimoniales dans la ville. C'est Villefranche de Rouergue, c'est une petite ville, c'est une ville médiévale secondaire, mais c'est une ville qui s'est constituée, qui s'est enrichie, qui s'est recomposée jusqu'au XIXe siècle au moins, et même jusqu'au début du XXe siècle. Donc il y a une très très grande diversité architecturale dans cette ville qu'on va découvrir. On va découvrir certains jalons ensemble, certains éléments emblématiques de l'architecture de cette ville.
Grand site à la découverte de Midi-Pyrénées.
Alors naturellement, les habitants qui s'installent à Villefranche à partir de la fondation 1252, à partir de l'établissement d'une charte de coutume qui va leur donner des droits et des devoirs, mais qui va leur donner des avantages fiscaux. Alors ces gens qui viennent de la campagne et qui s'installent, bien souvent, naturellement, sont amenés à construire eux-mêmes leur maison, la maison qu'ils vont habiter. Et la place de la Fontaine permet de comprendre notamment l'architecture de ces maisons, en tout cas les plus ordinaires. Ces gens bâtissent des maisons sur des terrains qui, généralement, il y a des terrains beaucoup plus importants, mais sur des parcelles qui font environ 6 mètres de largeur, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres de profondeur. Ce sont des lots, des parcelles qu'on leur propose, qu'on leur donne, et ils vont trouver du bois en forêt, se faire aider naturellement par un charpentier, aller chercher de la pierre dans des carrières, et bâtir des maisons qui étaient, je le pense, initialement majoritairement des maisons à pans de bois. Et on a devant nous, voilà, sur cette place de la Fontaine, deux maisons dont l'une conserve ses têtes de mur en pierre, hein, ces murets latéraux qui structurent la maison, et des étages qui sont mis en œuvre avec des pans de bois, en chêne ou en châtaignier, le châtaignier est majoritaire, et ces maisons étaient séparées de manière systématique par une sorte de venelle très très étroite, 40, 50, 60 cm de largeur, qu'on appelle un andron ou un entremis, qui servait, si vous voulez, d'égout à ciel ouvert, dans lequel étaient rejetées les eaux de lessive, les eaux grasses de la cuisine, mais également les conduits de latrine.
Une ville géométrique ?
Alors là, oui, la ville, effectivement, c'est une ville dont la trame est géométrique, en tout cas orthogonale. Alors, 8 rues principales, d'autres rues très importantes qui se coupent à angle droit, qui desservent majoritairement la place du marché, et un nombre invraisemblable de ruelles, de rues secondaires qui font 2 mètres, 3 mètres de largeur, des rues traversières, on appelle ça des rues traversières, qui permettent d'accéder par le côté généralement aux étages d'une maison, puis de desservir différents îlots. Voilà, donc un labyrinthe urbain très structuré, orthogonal, comme toutes les bastides que l'on peut découvrir dans le sud-ouest de la France.
Grand Site, à la découverte de Midi-Pyrénées.
Alors nous nous sommes rapprochés de la place Notre-Dame, de la place du Marché. Nous sommes dans la rue du Consulat. Alors cette rue porte le nom de la structure qui était composée de quatre consuls. Dans les Bastides, dans toutes les Bastides et à Villefranche naturellement, la ville était gérée, semble avoir été gérée dès sa fondation et jusqu'à la fin du XVIIe siècle au moins par des consuls. Quatre consuls qui étaient assistés par des conseillers ou par des prud'hommes. Et ces consuls étaient désignés une fois par an parmi les bourgeois de la ville, qu'on appelait les prud'hommes. Et cette charge a été occupée majoritairement, on peut le comprendre, par des notaires, par quelques magistrats, des membres du présidial ou de la cour de la Sénéchaussée, et puis également par un certain nombre de marchands, drapiers, etc. Alors, les consuls qui existent également sous une autre forme à Toulouse et dans d'autres villes du sud-ouest, à Béziers, à Narbonne, dès le XIIe siècle, ces consuls vont être chargés de la gestion de la ville. Ils vont être des médiateurs, une interface entre le fondateur, Alphonse de Poitiers, et ensuite les rois de France qui se succèdent, et les habitants. Et ils vont prendre les décisions les plus importantes, celles de développer l'économie, de construire un pont, d'aménager une fontaine, on en a parlé, de veiller à la propreté de la ville. C'est très très important, la société médiévale est très vigilante concernant la propreté, les problèmes d'hygiène. Ils vont être également amenés à réglementer le commerce, à vérifier la qualité de la viande qui est vendue dans le Mazel, tout près d'ici, à côté de la place de la Fontaine. Ils vont naturellement pouvoir arbitrer des litiges entre certains habitants, donner des autorisations, comme les élus actuellement. Et les consuls vont être chargés également de réaliser un certain nombre de grands travaux, aménager sur la place une halle, lever des fortifications, lever des murs pour défendre la ville, pour abriter la ville dans les années 1343, 1350. Voilà, ils ont un rôle tout à fait déterminant qui sera malgré tout arbitré par les représentants du roi qui tiennent la main sur, naturellement, tout ce qui concerne la justice et l'administration. Mais les consuls sont les ancêtres de nos élus et désignés pour un an, ils suggèrent déjà nos équipes municipales actuelles et un embryon de démocratie.
Grand Site.
Alors nous sommes rentrés dans la cour de la maison d'Ardenne, qui est une maison qui se situe au bas de la place Notre-Dame, dont l'architecture en fait en grande partie est soustraite au regard et au bruit. C'est un hôtel particulier tout à fait extraordinaire, assurément la maison la plus étonnante de cette ville, en tout cas au XVIe siècle. C'est une maison qui a été bâtie en deux étapes au moins, par une famille de marchands de cuivre, les Humbert d'Ardenne. Et cette maison a été transformée en grande partie par Jean Humbert d'Ardenne. On est certainement dans les années 1540. Jean Humbert d'Ardenne vient de se marier. Et cette maison est agrandie, organisée autour d'une cour, composée donc de quatre corps de bâtiment que cette cour dessert. Alors Jean Humbert d'Ardenne est marchand de cuivre, il est même négociant, il possède des entrepôts, il possède un ou plusieurs martinets à la Bastille-l'Évêque. On pense qu'il doit avoir la main sur une grande partie du négoce du cuivre dont on a pu parler et qui était une activité prédominante dans la ville. Et cet hôtel particulier lui permet à la fois d'accéder aux magasins qui se trouvent au rez-de-chaussée, mais également de rejoindre les étages, l'étage noble au premier étage et puis les étages supérieurs. Et cette cour présente la particularité d'être traitée à l'italienne. Elle est ouverte sur un côté, sur une façade, par une succession de loggias, de loggias à l'italienne, des galeries qui étaient à l'air libre, à ciel ouvert auparavant, matérialisées par des garde-corps, par des balcons, sur lesquels sont représentés 12 personnages qui illustrent la légende étrusco-romaine de Tarquin et de Lucrèce. Alors cette maison adopte le vocabulaire de la Renaissance. À l'extérieur, dans la cour, dans cette cour traitée avec beaucoup de finesse, peut-être un atelier toulousain a-t-il travaillé ici, c'est ce que l'on pense, et un escalier, on va pousser la porte, on va rentrer dans l'escalier ensemble. Voilà, un escalier qui est assez extraordinaire. Alors naturellement, on est dans une maison Renaissance. On a franchi la porte qui est surmontée par les portraits de Jean Humbert d'Ardenne et de son épouse Marguerite de Chalvet. Et cet escalier, assez démesuré pour l'époque, en tout cas pour la ville, à l'échelle de la ville, c'est un escalier à l'italienne. On n'est plus en face d'un escalier tournant d'une petite vis en pierre ou en bois. On est en face d'un escalier large, avec des volets droites, des quartiers tournants, et l'escalier est matérialisé par la succession de colonnes aux trois niveaux principaux, une colonne coiffée d'un chapiteau ionique, ensuite d'un chapiteau corinthien, d'un chapiteau dorique, avec un voûtement qui est assez extraordinaire et qui raconte l'aisance financière, l'assise sociale de ce propriétaire, de ce marchand qui appartient à l'élite commerciale de cette ville au milieu du XVIe siècle. Et Jean Humbert d'Ardenne fera construire, quelques années après cette maison de ville, il fera construire le château de Graves, hein, qui se situe à peu près à 2 km du centre ancien et qui domine la ville.
Si on avait évoqué peut-être d'autres éléments du patrimoine ici à Villefranche de Rouergue, donc Bastide, labellisé grand site Midi-Pyrénées.
Alors on ne peut pas connaître Villefranche sans avoir découvert, sans avoir visité d'autres monuments fondamentaux, d'autres monuments emblématiques. Alors nous sommes à côté de la place Notre-Dame, naturellement la place Notre-Dame qui est dominée par le clocher de la collégiale, de cette grande et belle église qui a été construite au XIIIe, au XIVe siècle et que l'on a achevée au milieu du XVe siècle. Une église tout à fait spectaculaire dont le clocher présente la particularité d'enjamber la rue, d'enjamber la place, donc de former une sorte de couvert gigantesque. Et à la même époque que l'achèvement de la collégiale Notre-Dame, un autre monument tout à fait extraordinaire qui a été classé au titre des monuments historiques dès 1840 sur l'initiative de Prosper Mérimée, qui est naturellement l'ancienne chartreuse Saint-Sauveur, qui se situe aux portes de la ville à 1 km environ et qui a accueilli une communauté de moines, de chartreux. C'est un monastère qui est conservé en grande partie et dont la qualité architecturale est spectaculaire. Alors on a parlé du château de Graves, mais dans la ville proprement dite, un autre patrimoine, un patrimoine cultuel, religieux, que nous n'avons pas encore évoqué, naturellement l'ancienne chapelle Saint-Jacques, dont la façade a été reconstruite et restaurée il y a fort peu de temps, une chapelle du milieu du XVe siècle qui évoque le statut de halte dont bénéficiait Villefranche de Rouergue dès le XIVe siècle, mais qui s'est intensifié, semble-t-il, à cette époque-là, dans les années 1455 et après. Cette chapelle qui était jouxtée par un hôpital dans lequel on donnait le gîte et le couvert aux pèlerins les plus démunis, les plus modestes. Et intramuros également, au-delà de petites réalisations, signaler deux chapelles dont l'une est conservée ouverte à la visite et qui a conservé une partie importante de son mobilier du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, l'ancienne chapelle des pénitents noirs, qui traduit à partir des années 1640 l'attachement des habitants au culte catholique. Voilà, et cette chapelle des pénitents noirs est une sorte de satellite de l'église avec un E majuscule. Elle va permettre à un certain nombre d'habitants, à une élite en tout cas, de pratiquer le culte de manière exemplaire, de suivre l'exemplarité du Christ. Voilà, cette chapelle des pénitents présente la particularité d'avoir un plafond peint lambrissé qui est tout à fait extraordinaire, un retable également, monumental, qui évoque la passion du Christ, et un certain nombre d'éléments mobiliers qui sont en place ou qui vont être donnés à voir au public très très prochainement.
Grand site à la découverte de Midi-Pyrénées.
Alors on peut visiter les monuments majeurs, les monuments emblématiques, mais également prendre le temps de se promener tranquillement dans cette multitude de rues qui composent le centre ancien, de découvrir un certain nombre de détails architecturaux, des éléments sur l'histoire de la ville qui sont racontés notamment à travers une signétique patrimoniale, un ensemble de cartels, de pupitres, de totems, de panneaux, qui permet à la ville de se raconter, donc prendre le temps et cheminer. Ne pas oublier de lever les yeux, d'observer tous les éléments qui composent cette ville et qui racontent cette ville jusqu'au début du XXe siècle notamment.
La Bastide de Villefranche de Rouergue en Aveyron nous a été présentée par Christophe Evrard, animateur de l'architecture et du patrimoine.